C'est un joli témoignage que nous allons entendre aujourd'hui et ces prochaines semaines, puisque en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire, nous sommes en route vers l'agroécologie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Vigne. Bonjour Denis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. On va parler de votre expérience. Et puisque vous avez repris, ça s'appelle donc la ferme Campagnole, une ferme qui appartenait, vous me l'avez dit, à vos parents, grands-parents, de génération en génération, et que vous avez repris récemment, et qui se trouve donc à La Loubert, dans les Hautes-Pyrénées, juste à côté de Tarbes.
Voilà, oui,
pour,
c'est ça.
Pour vous situer géographiquement. Alors, je disais qu'on allait partir un peu à votre découverte, puisque vos parents étaient maraîchers, et vous n'avez pas choisi ce métier-là. Vous êtes parti à Toulouse, suivre des études, et puis vous étiez informaticien, enfin, vous allez nous expliquer tout ça. J'aimerais qu'on, avant de parler de cette belle aventure, parce qu'aujourd'hui, juste pour dire à nos auditeurs, vous avez pas moins de 16 salariés.
Oui.
Vous avez une boulangerie bio avec du pain à l'ancienne. C'est ça qui est très important, hein, vous allez raconter ça. Alors qu'au départ, votre projet, c'était de le faire avec votre épouse, tous les deux. Je vois que votre projet a quand même bien évolué. Donc, on va partir un peu à la genèse de ce projet. Je disais, donc, vous étiez originaire donc, de la Loubert, à côté de Tarbes. Et vous me disiez que vous avez vu vos parents s'user à ce travail qui est remarquable, qui est très dur, c'est celui d'être maraîcher.
Oui, là c'est sûr que pour reprendre une ferme maraîchère, il faut vraiment être ou passionné de maraîchage ou très vaillant, ce qui n'était pas tout à fait le cas, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc à un moment, j'ai pas fait énormément d'études, mais j'ai quand même choisi l'option de partir dans l'informatique, me mettre au chaud, plutôt que prendre la suite de cette ferme. Et puis bon, voilà, c'est une histoire aussi d'adolescence et de vouloir faire aussi un petit peu autre chose que les parents, quoi.
Oui.
Même si ça infuse quand même un petit peu derrière, on a des racines et il y a des choses qui m'avaient titillé, je pense. À un moment, mon père avait énormément contribué au renouveau du haricot tarbé. Ça, c'est des petites choses qui m'avaient... autant je ne m'intéressais pas trop au boulot, autant ce côté un peu relance d'un produit, j'avais trouvé ça intéressant. Bon, il y avait des trucs comme ça qui m'avaient un petit peu accroché, mais j'avais besoin de faire mon cheminement un petit peu ailleurs.
Ça a dû un peu crever le cœur de vos parents de vous voir partir et ne pas reprendre la ferme.
Ben, je pense pas comme ça. En tout cas, ils ont eu la sensibilité de pas le montrer comme ça. C'est des gens très très ouverts, donc ils ont pas du tout cherché
à vous obliger à le faire.
Non, 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 c'était pas du tout un souci. Et c'était d'autant mieux finalement parce que ça me permettait de faire mon propre cheminement et d'y revenir par rapport à mon propre tempo, quoi, plutôt qu'être coincé par rapport à une pression externe, finalement.
Vous avez fait une petite plaquette qui retrace un petit peu votre histoire et vous dites dans le premier paragraphe, « Notre projet, c'est d'abord l'histoire de notre évasion. Coincés dans les trains quotidiens, nous étions, il y a 12 ans, deux cadres à Thônes dans l'industrie toulousaine. Christine, donc votre épouse, en chimie, elle était chimiste, et vous, Denis, un informaticien, donc dans le milieu informatique. Vous vous êtes rencontrés où avec votre épouse ?
Alors, on se connaît depuis toujours, si on peut dire, parce qu'on est ensemble depuis une trentaine d'années. Donc, on s'est connus à la Loubert. Et après, on a fini nos études sur Toulouse et on s'est installé à Toulouse.
D'accord. Donc, elle aussi, elle était, entre parenthèses, la Loubert, même les Hautes-Pyrénées, quand même un département assez rural.
Oui, 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 on vient de là. Bon, elle avait fait d'autres... avait déménagé plusieurs fois, mais c'était un attachement dans les Hautes-Pyrénées aussi très, très important. Donc, c'est vrai que, venu moment de notre développement dans notre parcours professionnel,
oui,
c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu en manque de sens rapidement dans le travail. Hein. On avait des boulots intéressants hein, l'un à l'autre, hein, qui nous ont nourris un temps hein, en termes intellectuels, par rapport à ce qu'on faisait. Même moment est venu poindre un petit peu le questionnement qui traverse un peu tout le monde, c'est quel est le sens de ce qu'on fait au boulot. On y passe quand même pas mal de temps sur une vie. Et donc, à parallèle à ces travaux, nous, on était quand même assez impliqués dans des associations altermondialistes. Je pense à ATTAC, par exemple, dans laquelle on essayait de... Enfin, qui nous permettait de nourrir un petit peu le côté militant. Christine avait lancé les premiers AMAP sur Toulouse. Pas toute seule, enfin, faisait partie des groupes qui relançaient les premiers AMAP sur Toulouse.
Rappelez, c'est quoi une AMAP pour les auditeurs?
Une AMAP, c'est une association de maintien de l'agriculture paysanne. En fait, l'idée, c'est de mettre en relation des agriculteurs, des maraîchers essentiellement, mais pas que, avec des groupes de consommateurs, et essayer de faire du circuit direct avec une notion de solidarité aussi. C'est des choses assez utopique, assez intéressante. Il y a des gens qui travaillent encore sur ce type de modèle. Et c'est vrai que ça nous a permis un peu de remettre un pied dans ce monde agricole, se dire, ah, mais quand même, dans le monde agricole, on peut faire des choses politiques intéressantes en termes d'écologie, déjà à travers la culture bio, l'agroécologie, à travers les variétés anciennes. Mais aussi d'un point de vue politique, au sens relocalisation de l'économie, circuit court, etc. Donc tout d'un coup, ce boulot de maraîcher qui me paraissait un peu désuet, de loin comme ça, enfin qui s'était un peu inscrit comme ça dans ma tête, a retrouvé un petit peu de son sens, intérêt. Ouais. Et puis j'ai pu faire le lien avec des petites choses aussi que j'avais vues plus gamin. Et après, bon, la vie, c'est une histoire d'opportunité, de hasard. En parallèle à tout ça, mes parents, qui n'avaient pas de repreneur, mais ce n'était pas du tout un drame. C'est des gens qui sont très ouverts et qui, finalement, faisaient autre chose de leur vie, puis continuent leur petit jardin pour eux. On fait le partage familial. Mon frère avait besoin d'un bout de terre pour construire, ma sœur aussi. Et donc, une fois que mes parents avaient donné un petit bout à l'un à l'autre, ils m'ont dit, Denis, tu vas récupérer le corps de ferme quand tu en auras besoin. Bon, alors voilà, je me retrouve ça dans les bras. Et voilà, donc on s'est retrouvé un petit peu à la croisée des chemins avec mon épouse, à nous dire, on s'ennuie un peu dans nos boulots, on a envie de s'exprimer un peu dans notre vie différemment. Nos petites filles, elles ont 4 ans, des jumelles, elles ont 4 ans, donc si on doit changer de vie, on va le faire plutôt quand elles ont 4 que quand elles en auront 16, ça sera plus simple. Et donc on s'est dit, allez, go, on plaque tout. Nos boulots, de toute façon, ça ne... pas que ça ne mène à rien, ça donne l'impression que je crache dans la soupe. En tout cas, on n'y trouve pas de perspective.
Donc, de plaisir.
C'est un grand mot de dire pas de plaisir, parce que c'est pas le bagne, de travailler dans l'industrie, mais en tout cas, ça ne nourrissait pas.
D'accord.
Et donc, on a décidé de tout plaquer. Et pour revenir sur la Loubert, ça paraît peu crédible, mais sans savoir ce qu'on allait faire, précisément.
D'accord. Vous aviez ce corps de ferme et un projet à mettre en place.
Voilà.
Mais vous en aviez assez de la vie toulousaine et de votre vie actuelle, quoi.
C'est ça. Oui. C'est ça.
À l'époque, je veux dire.
Oui. Alors, c'est pas du tout en rejet de la ville et tout ça, parce que moi, j'ai un très bon souvenir de Toulouse et on y va voir les amis avec plaisir, pas assez souvent, mais avec plaisir. C'est vraiment le côté faire quelque chose de nos 10 doigts, quoi, en quelque sorte. Et ça paraît un petit peu fou de dire, on est parti, on a tout plaqué comme ça. Mais à cette époque-là, à la faveur de la spéculation immobilière, on faisait une petite plus-value sur notre maison qui nous permettait d'avoir un petit pécule pour démarrer un projet.
Vous étiez bien installé à Toulouse, alors maison et tout.
D'accord. C'était vraiment posé. Alors c'était grosso modo, ça nous permettait d'avoir 5000 euros devant nous pour lancer un projet.
D'accord.
Ce qui est beaucoup et puis peu, quoi, pour lancer vraiment un projet de A à Z. Alors pour comprendre un petit peu le coup de folie qui n'en était pas tout à fait un. Moi, en parallèle de tout ça, je montais une boîte d'informatique pour faire des sites internet, pour faire un peu la jonction entre notre ancienne vie et notre nouveau projet dont on ne connaissait pas encore les contours.
C'était un côté un petit peu sécurité pour vous, hein.
Voilà, ça permettait de dire, si on ne trouve pas d'idée ou que l'idée est mauvaise, je vais quand même assurer mes arrières. Donc, c'est pas complètement inconscient tout ça, même s'il y avait un côté, quand même, un coup de poker, comme toute décision d'entreprendre, quoi. Et ça nous a permis aussi de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on voulait faire. Donc, On a bien sûr envisagé le maraîchage qui paraissait le plus logique sur la ferme. Christine était bien chaude là-dessus, moi moins. Et puis un jour, au gré d'une rencontre sur les... je crois que c'est une foire bio à Bagnères, on a rencontré Éric Marie, qui est paysan boulanger à Molé-au-Magnouac. Et qui lui, expliquait qu'il travaillait sur des variétés anciennes de blé. Donc là, comme on avait pas mal travaillé sur les OGM, ça nous parlait vraiment énormément, ce côté-là. Et puis il expliquait que c'était intéressant ce qu'il faisait, parce qu'il avait un petit moulin à meule de pierre, il écrasait son blé, faisait une transformation en farine. Ensuite, il faisait une transformation en pain et il faisait la vente directe. Et ça, il faisait ça en couple. Et donc, on s'est dit, non, mais là, bingo, quoi. Alors, on ne sait rien faire de tout ça, ni trop l'agriculture, mais bon, j'avais quand même le papa qui pouvait m'aider, ni la minoterie, ni la boulangerie. Mais on s'est dit, ça nous parle, il y a moyen de faire quelque chose.
À tous les deux.
Ouais, oui, ça nous a vraiment parlé à tous les deux. Mmh. Et ça, c'était quand même important dans le projet global qu'on soit deux. Là, seul sur quelque chose comme ça, il aurait fallu des nerfs d'acier pour traverser. C'est pas non plus qu'on ait rencontré des difficultés énormes, mais sur la longueur, c'est un projet qui a mis 2 ans à se mettre en route. Le temps de lancer les cultures, de poser les statues, de fabriquer le four. Notre premier four à bois, puisqu'on n'avait pas les budgets pour acheter un vrai four à bois, on a été à Figeac, démonter un four, brique à brique. Enfin, rien que le démontage a pris 2 mois. Donc, le remontage, je ne vous en parle pas, c'est 50 tonnes de matériaux. C'est vraiment le four à l'ancienne, vraiment.
Vous l'avez toujours lequel,
on l'a toujours. Alors, ouais. On ne s'en sert plus parce que ce n'est pas économique. Ouais. La combustion n'était pas au top et tout ça. Et puis là, on a acheté un outil professionnel qui épargne le dos et tout ça. Toujours à bois, le nouveau four, mais moderne, quoi. Mais à l'époque, voilà, on est parti sur une construction d'un four... adapté à un travail de couple, quoi. Et donc, pendant ces 2 ans où on bâtit tout ça et où les gens qui nous entourent oscillent entre enthousiasme et ceux qui nous disent « mais vous êtes complètement fous, quoi, vous êtes... »
C'est ça, c'est qu'un moment, quand vous avez annoncé ça à vos amis de Toulouse, que vous allez tout plaquer pour partir dans un projet, en plus que vous n'aviez pas forcément finalisé dans votre tête, ils ont dû tous vous dire « vous faites n'importe quoi, attendez, n'y allez pas... » Non.
Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Hein. Alors, souvent avec bienveillance, parce que ça peut miner. Hein. Si jamais tout le monde dans son ensemble nous avait dit que vous allez vous planter, on aurait craqué comme n'importe qui craquerait. Mais là, ce qui nous a permis de traverser tout ça, c'est d'une part d'y croire en couple, d'y croire. Hein. C'est pas qu'on était persuadé que ça allait marcher, c'était qu'on acceptait la perte, quoi, d'entrée. Que si ça marchait pas, eh bien, c'était il y a une devise qui décrit bien ça, c'est il vaut mieux des échecs que des regrets. Donc, on assumait le fait qu'on puisse se planter et on partait là-dedans. De toute façon, si on se plante là-dessus, ben, on recommencera autre chose, quoi. Donc il y a eu ça déjà qu'en couple, on était bien au clair là-dessus. Et puis l'environnement familial, parce que là du coup on s'est rapproché très très près de mes parents qui ont été d'un soutien sans faille, quoi, dans un projet pareil.
Ouais, c'est une belle aventure familiale après, hein, avec votre épouse, vos enfants et bien sûr vos parents à vous. Denis Vigne, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine. On a vu un petit peu la genèse de votre projet, ce changement de vie pour revenir à la terre, à vos racines. La semaine prochaine avec vous, on ira un petit peu plus loin, on va découvrir vraiment votre projet, votre boulangerie bio et comment vous avez tout mis assez en place pour partir d'un projet où vous étiez deux avec votre épouse pour vous trouver à la tête d'aujourd'hui 16 salariés avec un lieu de vente, les marchés. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça et surtout le produit que vous faites, c'est-à-dire tout à l'ancienne comme avant. On découvre ça donc avec vous dès la semaine prochaine. Merci.
Avec plaisir.